et des panneaux d'avertissement pour l'éruption du mont Ibu dans ce village. Équipe féminine indonésienne de futsal bat Hong Kong 5-0. Bonjour, Richard, voici les nouvelles en complet. La ministre britannique de l'Indo-Pacifique, Catherine West, se rendra en Indonésie du 20 au 23 janvier 2025 pour lancer le partenariat Royaume-Uni-Indonésie en matière d'infrastructure durable appelé Melaju. Dans un communiqué de l'ambassade britannique à Jakarta dimanche, il a été indiqué que ce partenariat comprend de nouveaux programmes dans le secteur des infrastructures, à savoir l'adaptation au climat et aux océans et la transition durable COAST. Au cours de sa visite, Catherine discutera également d'autres partenariats stratégiques, notamment des plans de développement, de la coopération commerciale et du financement des exportations pour soutenir les projets d'infrastructures vertes en Indonésie. Ce partenariat fait partie d'un partenariat stratégique plus vaste qui a été convenu par le président indonésien Prabowo Subianto et le premier ministre britannique Keir Starmer, qui sera signé en 2025. L'aide humanitaire internationale pour la Palestine, YAP, en tant qu'alliance humanitaire de plusieurs institutions humanitaires et institutions nationales de Zakat, a distribué de l'aide sous la forme de 2 conteneurs de blé pour répondre aux divers besoins du peuple palestinien. Le président de l'alliance YAP, Fadil Madhouri, a déclaré dimanche que l'aide sous forme de logistique alimentaire avait été distribuée avec le soutien du gouvernement par intermédiaire de l'ambassade d'Indonésie en Jordanie. Fadil a également déclaré qu'en plus de distribuer une assistance logistique, l'IAP a également envoyé ses volontaires de 6 institutions. Fadil a ajouté en plus des activités de distribution d'aide, l'IAP visitera également l'UNRWA, accompagné du Royaume de Jordanie, pour discuter de la coopération liée à l'aide à la Palestine. L'autorité des services financiers, OJK, en collaboration avec le gouvernement provincial de Sumatra du Sud, et le centre de quarantaine des animaux, des poissons et des plantes, a exporté avec succès 59,4 tonnes de café vers la Malaisie et l'Australie. Ces exportations comprenaient 19,8 tonnes de café arabica et robusta vers l'Australie et 39,6 tonnes de café robusta vers la Malaisie. Le directeur d'OJK Sumatra du Sud, Arifin Susanto, a déclaré dimanche que cette exportation est la première et qu'il négocie pour exporter du café du sud de Sumatra vers l'Algérie. OJK, en collaboration avec d'autres institutions financières, facilite le financement pour augmenter la production et la qualité du café et soutenir le rajeunissement des plantations de café et développer les exportations. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère du Tourisme, participe au Forum du Tourisme de l'ASEAN ATF 2025 à Johor Bahru en Malaisie du 15 au 20 janvier 2005. Dans un communiqué officiel du ministère du Tourisme dimanche, la ministre du Tourisme, Widyanti Putriwardana, après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture de l'ATF 2025 au Centre international de congrès Persada Johor samedi, a déclaré que la participation de l'Indonésie à l'ATF 2025 est un effort pour renforcer la collaboration avec les pays membres de l'ASEAN. Widyanti a également expliqué que l'ATF est un forum de coopération entre les pays membres de l'ASEAN pour promouvoir le tourisme dans la région. Elle a déclaré que pour l'Indonésie, ce forum est un événement stratégique pour renforcer son rôle sur la scène touristique mondiale, présenter la richesse naturelle et culturelle et construire une coopération régionale bénéfique. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Sugiono, lors de la retraite des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à MM Retreat à Langkawi en Malaisie, a exprimé dimanche le soutien de l'Indonésie à la vision 2045 de la communauté de l'ASEAN qui vise à faire de l'ASEAN une région forte, dynamique et résiliente dans les 20 prochaines années. Dans une déclaration du ministère indonésien des Affaires étrangères dimanche soir, Sugiono a souligné l'importance de renforcer la capacité institutionnelle de l'ASEAN pour réaliser cette vision et encourager une coopération plus globale pour relever les défis mondiaux de plus interconnectés. Sugiono a également évoqué la question de la stabilité régionale de l'ASEAN qui est affecté par la concurrence entre les grandes puissances. Il a également souligné l'importance de l'unité de l'ASEAN et de son rôle proactif dans le maintien de la stabilité et de la prospérité régionale. Il a également encouragé le renforcement des mécanismes et des institutions de l'ASEAN, notamment le Forum régional de l'ASEAN et le Forum de l'Asie de l'Est. Le ministre des Affaires étrangères a également souligné la nécessité pour l'ASEAN d'aider intensivement la Birmanie à résoudre sa crise et de soutenir la mise en œuvre du consensus en 5 points. L'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, a installé des sirènes et des panneaux d'avertissement de l'éruption du mont Ibu dans 6 villages dans la région de Halmahera occidentale, dans la province de Moluques du Nord. C'est ce qu'a déclaré le député chargé des systèmes et de la stratégie de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Raditya Jati, lors de la confirmation internetée dimanche. Raditya a déclaré que les 6 villages se trouvent dans la zone rouge sujette à l'éruption du mont Ibu. Il a expliqué l'installation de panneaux d'avertissement afin que les résidents soit conscient de l'interdiction d'effectuer des activités dans la zone rouge de l'éruption du mont Ibu. Entre-temps, la sirène installée sera reliée à un dispositif de détection installé en amont autour du mont Ibu afin que la communauté soit sûre de savoir qu'elle se trouve dans une zone dangereuse et qu'elle espère toujours évacuer. Le gouvernement de la région d'Halmahera occidentale a fixé le statut d'intervention d'urgence pour la gestion de l'éruption du mont Ibu pendant 14 jours à compter du 15 janvier 2024. Cette décision fait suite à l'augmentation du statut du mont Ibu au niveau 4A ou alerte. L'équipe nationale féminine indonésienne de futsal a réussi à battre Hong Kong 5-0 lors du match de clôture du groupe B des qualifications pour la Coupe d'Asie de futsal féminin 2025 au Among Rogo Sport Hall du Jakarta dimanche. Après une première mi-temps sans but, l'Indonésie a pris l'avantage à la 22e minute grâce à Dinar Kartikasari suivi par des buts d'Insafadia Salsabila, Dinar Kartikasari à nouveau, Jen Sitiway et Nisma Francida Rusdiana qui a marqué un triplé. Ainsi, l'Indonésie est devenue la meilleure équipe du groupe B des qualifications pour la Coupe d'Asie de futsal féminin 2025, avec un total de 9 points ou un vaincu. Lors des 3 matchs joués, l'Indonésie a confirmé sa qualification pour la Coupe d'Asie de futsal féminin 2025 qui se tiendra du 7 au 18 mai en Chine. Bon chargeur de tard, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Vision de la communauté de l'ASEAN 2045 et la contribution à la résilience mondiale ». Le ministre des Affaires étrangères des membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, dimanche 19 janvier 2025, se sont réunis à Langkawi, en Malaisie, pour la réunion de retraite des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, AMM. Cette réunion a discuté du renforcement de l'ASEAN sous la présidence de la Malaisie à travers les pays politiques, sécuritaires, économiques et socioculturels. Ils ont également discuté de l'orientation stratégique de l'ASEAN, y compris les mesures visant à renforcer la communauté de l'ASEAN et les relations extérieures. Lors de la réunion, le ministre indonésien des Affaires étrangères, Sugiono, a souligné l'engagement de l'Indonésie à soutenir la vision de la communauté de l'ASEAN 2045. Selon lui, la vision a une signification importante pour faire de l'ASEAN une région forte, dynamique et résiliente dans les 20 prochaines années. La vision de la communauté de l'ASEAN 2045 met en évidence un certain nombre de défis préoccupants allant du changement climatique, de la numérisation à la durabilité. Cette vision devrait également répondre aux défis des émissions de carbone, de l'égalité des sexes et de la transformation numérique. L'année 2023 a été déclarée l'année la plus chaude, même la plus chaude de l'histoire. Cela souligne l'importance d'accélérer la baisse des températures mondiales. L'engagement de réduire les émissions de carbone et de lutter contre le réchauffement climatique doit donc se traduire par des actions rapides et concrètes. D'autre part, l'ASEAN reconnaît le rôle transformateur de la technologie numérique dans la construction d'un avenir plus fort. La quatrième révolution industrielle et la transformation numérique peuvent apporter des solutions aux défis sociaux, économiques et environnementaux. La combinaison du commerce du carbone et de la numérisation présente un grand potentiel pour accélérer la transition vers une économie à faible émission de carbone, encourager les pratiques durables et contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. Dans l'ensemble, le commerce du carbone peut être un outil précieux dans les efforts mondiaux visant à lutter contre le changement climatique et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable ODD en promouvant des pratiques responsables d'environnement et en soutenant des projets durables dans le monde entier. Pendant ce temps, la communauté internationale a pleinement confiance dans les efforts de l'ASEAN pour faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. L'ASEAN soutient un changement de paradigme visant à donner aux femmes les mêmes droits et les mêmes capacités pour participer au changement au sein de la communauté. Lorsque l'ASEAN définit sa vision pour les deux prochaines décennies, les défis à venir sont considérables. Toutefois, les possibilités d'intensifier la coopération régionale et internationale en vue d'une communauté résiliente et dynamique ne sont pas moins vastes. La vision communautaire de l'ASEAN 2045 devrait constituer une solution fiable pour répondre aux défis actuels, non seulement pour l'Indonésie et la région, mais aussi pour les populations du monde entier. C'est le temps, c'est le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'histoire d'aujourd'hui avec Maudry. Et nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec le 20 janvier 1965. Qu'est-ce que c'est ça? L'Indonésie quittait l'ONU. L'Indonésie s'est retirée de l'ONU le 20 janvier 1965 par une lettre du ministre des Affaires étrangères, le docteur Subandrio. Cette décision a été prise en réponse à l'élection de la Malaisie comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été considéré comme préjudiciable aux intérêts de l'Indonésie dans le contexte de la confrontation avec la Malaisie. Le président Sukarno considérait l'ONU comme injuste, un outil politique de l'Occident et une violation de la Charte des Nations Unies parce qu'elle soutenait la formation de la Malaisie. Cette décision a conduit à l'isolement international de l'Indonésie et à la perte d'un forum pour résoudre le conflit avec la Malaisie. L'Indonésie est redevenue membre de l'ONU le 28 septembre 1966. À cette époque, sous la direction du président Suharto, l'Indonésie a changé l'attitude pour se concentrer sur la reprise économique et l'amélioration de son image internationale. Passons maintenant au 20 janvier 1972. Le Pakistan a lancé son programme d'armes nucléaires. Le Pakistan a lancé son programme d'armes nucléaires le 20 janvier 1972, quelques semaines après la défaite de la guerre d'indépendance du Bangladesh et de la guerre indo-pakistanaise de 1971. Le programme était dirigé par le premier ministre Zulfikar Ali Bhutto, qui a nommé Munir Ahmad Khan, président de la Commission de l'énergie nucléaire du Pakistan, PAEC, pour objectif de produire des armes nucléaires d'ici 3 ans. Après les essais nucléaires indiens de 1974, le Pakistan a été davantage motivé à accélérer le développement des armes nucléaires en se concentrant sur l'enrichissement de l'uranium au laboratoire de recherche de Kahutta et sur le développement d'autres technologies de soutien. Le premier essai nucléaire pakistanais a été réalisé le 28 mai 1998. Quelques semaines après le deuxième essai nucléaire indien, avec 5 engins explosifs à Ras Kohils, au Baloutchistan, lors d'une opération baptisée Chagai-1. 2 jours plus tard, un deuxième essai baptisé Chagai-2 a eu lieu, réalisé dans le désert de Karen. Avec cet essai, le Pakistan est devenu le 7e pays au monde à développer et à tester des armes nucléaires. Chers amis, nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement de 20 janvier 2001, date à laquelle George Walker Bush a été investi comme président des États-Unis. Le 20 janvier 2001, George Walker Bush a été investi président des États-Unis après avoir remporté l'élection présidentielle de 2000. Le leadership de George Bush a enregistré un certain nombre d'événements majeurs, notamment les attentats du 9 novembre qui ont conduit à la politique de guerre contre le terrorisme. Au cours de son second mandat après sa réélection en 2004, George Bush a dû faire face à un certain nombre de défis, notamment le conflit en cours en Irak et l'ouragan Katrina en 2005, qui a suscité des critiques pour sa gestion de la situation. À la fin de son mandat, Bush a également été confronté à une crise économique mondiale, mais son rôle dans l'histoire des États-Unis est resté dans les mémoires pour un certain nombre des politiques majeures qui ont influencé le monde. Bon, je vais t'arrêter tout. L'histoire. Aujourd'hui.
Voice of Indonesia.
Aku dan kamu kita semua pernah terjatuh. Yakinlah jangan. tahu semua ini tak akan mudah. You have to believe.
Chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la vie suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « Indonésie réalise un tourisme de qualité à travers le forum du tourisme de l'ASEAN ». Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère du Tourisme, a participé au Forum du Tourisme de l'ASEAN ATF 2025 à Johor Bahru, en Malaisie, du 15 au 20 janvier 2025. La ministre indonésienne du Tourisme, Widianti Putriwardana, après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture, a déclaré que la participation de l'Indonésie à l'ATF 2025 était un effort pour renforcer la collaboration avec les pays membres de l'ASEAN. Citant le communiqué de presse du ministère du Tourisme dimanche 19 janvier, le ministre du Tourisme Widianti a déclaré que la participation de l'Indonésie à l'ATF 2025 était également un effort pour réaliser un tourisme de qualité. Elle a expliqué que le Forum du Tourisme de l'ASEAN est un forum de coopération entre les pays membres de l'ASEAN pour promouvoir le tourisme dans la région. Cette année, l'ATF porte sur le thème « L'unité en mouvement, façonner le tourisme de demain dans l'ASEAN ». Widianti Putriwardana a déclaré que pour l'Indonésie, le Forum du tourisme de l'ASEAN est un événement stratégique pour renforcer son rôle sur la scène touristique mondiale, présenter les richesses naturelles et culturelles et construire une coopération régionale bénéfique. Midianti espère que les résultats de la réunion constitueront l'une des bases sur lesquelles le ministère du Tourisme pourra s'appuyer pour développer divers programmes visant à faire progresser les secteurs du tourisme et de l'économie en Indonésie et en Asie du Sud-Est. Lors de sa participation au Forum de tourisme de la Chienne, ATF 2025, il a également rencontré le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée, Yoo In-Shon. Lors de la réunion, Midianti a discuté du renforcement du potentiel de coopération entre les deux pays dans le secteur du tourisme. Il a déclaré que cette réunion a porté sur la coopération dans le cadre du partenariat stratégique global CSP ASEAN EOK, qui comprend également plusieurs collaborations potentielles dans le secteur du tourisme des deux pays. Les initiatives de coopération discutées comprenaient des efforts conjoints de promotion du tourisme dans l'espoir de renforcer l'intérêt des populations des deux pays pour diverses destinations et attractions touristiques des deux pays. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Oh,
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Sejurutak au milieu de l'émouère sanctiant de la capitale, il y a un quartier qui détient la longue histoire du voyage de l'Indonésie, à savoir Kota Tua Jakarta, ou la vieille ville de Jakarta. Ce quartier est un témoin silencieux de l'époque coloniale néerlandaise, avec des magnifiques bâtiments de style colonial et une atmosphère qui nous ramène dans le passé. La vieille ville est une destination touristique privilégiée qui allie éducation, culture et divertissement. Résultat, la vieille ville de Jakarta offre une variété d'attractions principales telles que le musée Fathahila, où vous pourrez en apprendre davantage sur l'histoire de la ville de Jakarta. Le nom officiel du musée Fathahila est le musée d'histoire de Jakarta. Le musée Wayang, qui abrite une collection de wayang de tout l'archipel, est situé sur la rue Pintu Besar du Nord, numéro 27 Pinangsia, vieille ville, Jakarta Ouest. Musée de la Banque d'Indonésie avec des expositions interactives sur l'histoire du secteur bancaire en Indonésie. Certaines des collections du Musée de la Banque d'Indonésie comprennent des collections de monnaie royale dans l'archipel, l'évolution de la monnaie de l'époque coloniale à nos jours, miniatures de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, VOC, ou des sociétés commerciales néerlandaises, la transformation du logo de la Banque d'Indonésie, etc. Le parc Fathahila, dans cet endroit, vous pouvez faire du vélo tout en profitant de la vue sur le bâtiment colonial. Les visiteurs peuvent prendre des photos en costume de style hollandais tout en faisant du vélo. N'oubliez pas de vous arrêter au café Batavia, un restaurant de style classique servant des plats locaux internationaux dans une atmosphère d'antan. Sejuritas, l'accès à Kota Tua est très facile, que ce soit en véhicule privé ou en transport en commun tel que KRL et Trans Jakarta. Cette zone est également dotée d'installations complètes telles qu'un parking, un restaurant et un centre d'information touristique. Pour une expérience optimale, visitez le matin ou le soir pour profiter d'une ambiance plus confortable. La vieille ville de Jakarta est la destination idéale pour en apprendre davantage sur l'histoire indonésienne tout en profitant de moments de qualité en famille. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec comme titre Kota Tua Jakarta ou la vieille ville de Jakarta. Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Tak sengaja buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya. Cinta datang tiba-tiba, mau tak mau. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu. Tak kena waktu. Gedung tinggi cinta. Telah jatuh cinta, kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu. Jantung meledak rasanya.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id.
Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien.
Bonsoir, tous les amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Perusahaan Ekspedisi signifie à la compagnie d'expédition. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Per sepeda motor. Je répète. Per sepeda motor signifie par moto. Cette conversation a eu lieu entre Chris, un vlogueur australien, et employé dans une agence d'expédition dans la ville de Semarang. L'employé a répondu à la question de Chris en l'informant des frais d'expédition de la moto. Écoutons le dialogue.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Per sepeda motor. Per sepeda motor signifie par moto. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Biaya. Biaya signifie les frais. Pengiriman. Pengiriman signifie l'expédition. Dari Semarang. Dari Semarang signifie de Semarang. Ke Palangkaraya. Ke Palangkaraya signifie à Palangkaraya. 1.300.000 rupiah. 1.300.000 rupiah signifie 1.300.000 rupiah. Per. Per signifie par. Sepeda motor. Sepeda motor signifie la moto. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Signifie le frais d'expédition de Semarang à Palangkaraya Rp1.300.000 par moto. Berapa biaya? Berapa biaya? Signifie combien ça coûte? Mengirim. Mengirim signifie envoyer. Dans la conversation, vous entendez la phrase biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Cerepet. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Signifie le frais d'expédition de Semarang à Palangkaraya Rp1.300.000 par moto. Dans cette phrase, il y a une expression per sepeda motor. Per sepeda motor signifie par moto. Le mot per signifie par, c'est-à-dire chacun ou un, fonctionne pour marquer le nombre de moto, ce qui signifie une moto. L'expression per sepeda motor signifie par moto, signifie chaque ou une moto. Écoutons un autre exemple d'utilisation du mot per. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp100.000. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp100.000. Signifie les frais d'adhésion mensuel à ce centre de remise en forme sont Rp5.000. Harga tiket bioskop Rp50.000 per orang. Harga tiket bioskop Rp50.000 per orang. Signifie prix du billet de cinéma Rp50.000 par personne. En Indonésie, le terme désignant un véhicule motorisé à deux roues est sepeda motor, ce qui signifie la moto. Cependant, la majorité des Indonésiens appellent sepeda motor un motor. Motor, ce qui signifie la moto. Dans certaines régions, il y a aussi des gens qui appellent les motos un kereta. Kereta. Cela veut dire le train. Enfin, il y a aussi ce qu'ils appellent une certaine marque de moto. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir.
Dalam hatiku. diriku, tiada yang salah, hanya saja terasa ku berubah. Tak lagi seperti saat kau di sini, semua terasa sangat indah. Kenapa ini tak seindah dulu saat kau masih ada di hatiku?
Voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Magazine Musical avec Maudry. Dans cette émission, nous présentons une chanson croncho intitulée Permintaan Hati, chantée par Christian Ade. J'ai jamais cette chanson écrite par Noé et popularisée par le groupe de musique Leto et sortie le 16 août 2007. Jusqu'à présent, beaucoup de gens ont supposé que cette chanson était une chanson qui racontait la relation amoureuse d'un couple d'amoureux. Cependant, cette chanson a en réalité bien plus de sens que de simplement parler des relations nous-mêmes avec les humains. La chanson Permintaan Hati peut également être interprétée comme une prière d'un serviteur qui veut toujours être proche du Créateur. Cette chanson parle de la relation entre les humains et leur Dieu. Bon, chers auditeurs, voici Restiana de voix chanter une chanson croncho intitulée Permintaan Hati. Bon, écoute.
Terbuai aku hilang, terjatuh aku dalam keindahan.
Terlepas, bukan mau bersama.
pour l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.
From Jakarta, Indonesia, here is Voice of Indonesia with English program. Presenting news, information, and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz. Online streaming, voanews.id and RRI Digital Mobile Application. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
From Indonesia
to the world. Here is the news for the headlines. Indonesian President Prabowo Subianto inaugurates 3.2 gigawatt electricity project. Indonesia officially launched International Carbon Trading Initiative. I am Nuka Kusumawati, now the news in detail. Let's begin with the first news, where Indonesian President Prabowo Subianto inaugurated 37 electricity projects at Jati Gede Hydroelectric Power Plant in Sumedang Regency, West Java on Monday. The projects are spread over 18 provinces with a total power generation capacity of 3.2 gigawatts. Prabowo said the projects were possibly the largest energy projects inauguration in the world.
Pada hari ini saya mendapat kehormatan besar.
Today I have a great honor and I'm very proud to be present in Jati Gede to inaugurate a group of big projects in 18 provinces, if I am not mistaken, in 26 projects that produce 3.2 gigawatts of energy, as well as 11 follow-up projects for the construction of substation and grids.
Di 18 provinsi, kalau tidak salah di 26 proyek yang menghasilkan 3,2 gigawatt energi, juga dengan